Dans cette troisième heure, il y aura l'ami Luc qui va venir nous parler du conflit de travail là qui est en train de se développer au poste. Je vous laisse deviner si c'est sa bonne ou sa mauvaise nouvelle du jour. Il va nous parler également de la volonté des conservateurs de relancer le pipeline Énergie-Est. Je vous laisse deviner si c'est sa bonne ou mauvaise nouvelle du jour. On va parler également de cette étude très, très intéressante qui démontre que si on mange bio, on diminue de beaucoup nos chances de développer un cancer. Ça vient tout juste de sortir en France, puis c'est vraiment un très, très vaste échantillonnage. Est-ce que c'est à cause de l'absence de pesticides? En tout cas, c'est supposé, quand on mange bio, on est supposé manger des aliments sur lesquels il n'y a pas eu de pesticides. Ça, c'est la théorie, c'est pas toujours vérifiable en pratique. Mais en tout cas, est-ce que c'est pour ça que donc le cancer serait beaucoup moins fréquent chez les personnes qui mangent bio? On verra bien. Mais d'abord, je veux vous parler de cette nouvelle donc de Caroline Touzin dans la Presse Plus de ce matin qui nous dit que les médecins généralistes, les médecins de famille sont vraiment excédés par toutes sortes de problèmes dans le système de santé. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas. La Fédération des médecins omnipraticiens s'est donné une ligne de dénonciation. Une ligne de dénonciation il y a 18 mois de ça. Ils l'appellent la ligne lucide, la ligne utilisée pour communiquer l'inacceptable et le désastreux, lucide. Et là, elle a obtenu, la journaliste, donc plusieurs courriels qui démontrent les problèmes que vivent nos médecins de famille. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a une partie des problèmes qui touchent les médecins spécialistes, l'accès aux médecins spécialistes, et on aura la réponse de la Fédération des médecins spécialistes du Québec après l'entrevue avec Sylvain Dion, médecin de famille et vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens, donc les médecins de famille du Québec. Bonjour, Dr. Dion.
Bonjour, M. Drainville.
Donnez-nous trois exemples très concrets là, d'irritation profonde que vivent les médecins de famille actuellement au Québec.
Tel qu'on voit dans l'article, il y a quand même plusieurs éléments là, qui sont notés. Premièrement, il y a eu la mise en place là, en 2016 d'un système de référence en spécialité. C'était quelque chose que les médecins de famille demandaient. Donc, c'est ce qu'on appelle là, l'accès prioritaire aux services spécialisés, la PSS ou le CRDS.
Centre de répartition des demandes de services.
En plein ça. Donc, on vit quand même beaucoup de difficultés par rapport à ce centre-là. D'une part, c'est sûr que c'est une centralisation des demandes, mais en même temps, ça n'a pas nécessairement réglé tous les problèmes d'accès à la médecine spécialisée. Ça, c'est un des problèmes que l'on voit. L'autre problème que l'on note également, c'est l'octroi de ressources dans nos groupes de médecine de famille. Il y avait eu tout de même des ententes là, conclues entre le ministère et la fédération quant à un programme des groupes de médecine de famille qui prévoit l'ajout d'infirmières, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels dans les GMF en fonction de leur nombre de patients là, inscrits et suivis. Encore là, on a des difficultés à avoir ces ressources. Là, il manque d'infirmières, il manque de travailleurs sociaux. Souvent, ce personnel-là, lorsqu'il s'absente pour congé de maternité ou congé de maladie, n'est pas remplacé. Donc, ça a des impacts quand même majeurs là, sur notre fonctionnement là, dans nos cliniques et dans nos CLSC. Puis peut-être le troisième exemple qui a été rapporté dans l'article auquel vous faites référence, c'est la lourdeur administrative qu'on vit avec notamment les organismes gouvernementaux. Je regarde avec la Régie d'assurance maladie du Québec là, pour qu'un patient puisse avoir gratuitement accès à un médicament. Le processus est lourd. Il faut faire des demandes année après année. Juste pour vous dire un exemple, pour que le patient puisse bénéficier de médicaments pour contrôler sa maladie d'Alzheimer, il faut faire une demande année après année pour justifier la demande, alors que vous comprendrez, vous et moi, que je ne pense pas que d'une année à l'autre, le patient là, soit rétabli de sa démence. Donc, il y a là des irritants dans la pratique qui font en sorte que bien souvent, on passe plusieurs heures par semaine, je dirais, à compléter de la paperasse, alors qu'on pourrait peut-être voir des patients autrement.
Pourquoi vous avez créé cette ligne-là à l'origine? Parce que ça, vous l'avez dit, là, vous l'avez créé il y a 18 mois de ça. Moi, je regarde ça de l'extérieur, là. J'ai l'impression que c'est comme une façon de laisser la pression sortir du système. C'est comme une façon de lever le couvercle pour pas que la marmite saute, pour pas que la pression des médecins de famille finisse par en amener certains au burn-out.
c'est sûr que un des objectifs là, de cette ligne-là, c'était de permettre aux médecins de s'exprimer. Pour faire une histoire courte, là, cette ligne-là a été pensée par un groupe de médecins sur notre comité des communications qui entendait sur le terrain les médecins se plaindre des difficultés qu'ils vivaient dans leur pratique. Donc, on leur a donné un lieu pour aller s'exprimer. Puis bon, on a quand même eu là, au-delà de 300 là, interventions là, au cours d'une période de 18 mois. Je pense que ça répondait à un besoin. Je pense que l'autre élément très important pour nous aussi, c'est qu'au cours des dernières années, à la Fédération, on a été témoin de beaucoup de réformes et de mise en place de nouvelles choses dans le réseau de la santé. Bon, on parlait tantôt de l'accès à la spécialité, rendez-vous Santé Québec est une autre chose. Donc, beaucoup de choses ont été mises en place et souvent à la hâte. Mmh. Et la difficulté qu'on avait dans nos relations avec le ministère de la Santé, quand on leur disait que ça ne marchait pas, ils voulaient avoir des cas concrets. Et ça nous a permis à la Fédération d'avoir ces illustrations-là de difficultés que vivaient les médecins, mais qu'on s'entendra là-dedans, M. Drainville, que vivent les patients aussi, qui voient souvent des délais là, des délais s'allonger. Donc, ça nous a donné de la matière pour revenir et faire améliorer les choses. Donc, il y a eu, c'est pas seulement qu'un exécutoire, là, je pense que ça a été fort utile pour faire améliorer les choses là, au fil du temps. Puis bon, l'accès à la médecine spécialisée, oui, on a encore des difficultés, on a encore des ratés, mais on a permis quand même d'améliorer certaines choses.
Parlons-en là, parce que j'ai le docteur Ferland qui nous écoute là, de la FMSQ, qui va réagir dans un instant. Mais on se rend compte que il y a plusieurs, sources d'irritation des médecins de famille ou que vivent les médecins de famille, qui proviennent donc de ce fameux CRDS, là, le Centre de répartition des demandes de services. Ça, dans le fond, c'est un guichet unique qui devait ou qui doit permettre, par exemple, à un médecin de famille d'envoyer un patient auprès d'un collègue médecin spécialiste. Donc, par exemple, tu as un problème avec tes yeux, tu dois voir un ophtalmologiste, bien, ton médecin de famille va inscrire ton nom dans le fameux centre de répartition. Et là, il est supposé y avoir un ophtalmologiste qui va répondre puis qui va dire, bien, je suis prêt à le prendre, ton patient, tel jour, telle date, puis ça va se faire rapidement. Sauf qu'on se rend bien compte, dans les cas qui sont rapportés, que dans bien des cas, le CRDS ne semble pas fonctionner.
Moi, je ne veux pas lancer nécessairement la pierre au médecin spécialiste parce que entre le médecin de famille et le médecin spécialiste, il y a justement le CRDS qui est la structure administrative centralisée qui doit gérer ces demandes-là. C'était quand même, je dirais, une mini-révolution dans plusieurs régions parce que souvent, on fonctionnait hôpital par hôpital et là, on mettait ensemble finalement plusieurs hôpitaux dans le même guichet d'accès, ce qui a été, je dirais, une des sources là, de difficultés qui s'est vécue dans plusieurs régions. Et on se le cachera pas, là. Souvent, c'était des mesures qui étaient mises en place un peu à la hâte, sans que tout soit arrimé. Les médecins de famille, on a vécu des difficultés là-dedans. Moi, pour avoir côtoyé des médecins spécialistes, le docteur Ferland pourra en parler. De leur côté aussi, c'était pas aisé d'avoir à gérer ça. Déjà qu'ils avaient de longues listes d'attente aussi.
Donc, c'est important, ça, docteur Dion. Vous êtes en train de dire le système de guichet unique pour avoir accès aux médecins spécialistes ne fonctionne peut-être pas de façon optimale, mais vous ne remettez pas en question, dis-je, le principe de regrouper les médecins spécialistes de toute une région à l'intérieur d'un guichet.
Je ne remets pas ça en question. Je pense qu'on a trouvé une façon de gérer la référence aux médecins spécialistes qui est quand même adéquate avec des éléments de priorité. Bon, prenons un exemple, je réfère un patient en orthopédie pour une déchirure d'un ménisque. Bon, ben ça me dit que le patient doit être vu à l'intérieur d'un délai X, Y, Z. Bon, maintenant, est-ce que les médecins spécialistes de l'autre côté vont pouvoir répondre à la demande en fonction du délai qui aurait été fixé? Ça dépend toujours du nombre de médecins spécialistes qui sont disponibles, comment est-ce qu'à l'intérieur d'une région aussi on veut répartir les demandes comme ça. Mais ce qu'on a vu au début, c'était qu'il y avait souvent des exigences davantage administratives. Il fallait qu'on joigne un rapport d'examen alors que ce rapport-là était déjà disponible dans le dossier Santé Québec. Ça alourdissait un petit peu la mécanique. Bon, on s'est adapté du côté des médecins de famille, puis les choses, comme je vous disais tout à l'heure, ont tout de même là, évolué favorablement. Mais juste pour vous donner un exemple, au début de septembre dernier, on ajoutait 7 autres spécialités aux 9 déjà existantes. Oui. Et on a reçu les nouveaux formulaires 48 heures avant le début de la mise en place là, de la nouvelle vague. Donc, il y a des choses, à un moment donné, qui manquent un petit peu de planification. Puis c'est pas de notre faute, les médecins de famille, puis ni les médecins spécialistes. À un moment donné, c'est la machine qui ne fournit pas avec tous les changements qui lui sont demandés.
Alors, docteur Sylvain Dion, médecin de famille, vice-président de la FMOQ, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci.
Ça m'a fait plaisir, M. Drainville.
Et on va passer donc au docteur Rénal de Ferland, qui est le vice-président de la FMSQ, donc la Fédération des médecins spécialistes, et qui est chargé du dossier, justement, du Centre de répartition des demandes de services, le CRDS. Bonjour, docteur Ferland.
Bonjour, M. Drainville.
Comment vous réagissez d'abord à ce papier là qui met en cause le fonctionnement du CRDS pour quelques spécialités, l'ophtalmologie, mais aussi la pédiatrie? Ça semble fonctionner plus ou moins bien, le CRDS, là.
C'est-à-dire que le CRDS, c'est une entité, effectivement, qui a pas un long parcours, qui a à peine 2 ans de vie pour les 9 premières spécialités. Les 7 autres spécialités, comme M. Dion a dit, elles viennent de démarrer au mois de septembre. C'est un processus, effectivement, qui était long à mettre en place. De par la structure, de par la volumétrie aussi que ça a généré, parce qu'il ne faut pas oublier que par le CRDS a transité plus de 500 000 demandes de consultation pour 9 spécialités. Donc, c'est quand même un volume qui est significatif, qui démontre que ça prend du personnel pour pouvoir, ça prend un outil informatique adéquat pour pouvoir être capable de répondre à cette demande-là. Et ça, dans l'ensemble des CRDS au niveau du Québec. Okay. Donc, je pense qu'il y a une volumétrie qui témoigne qu'effectivement, les gens ont travaillé fort pour livrer cette marchandise-là. De prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de correctif à apporter ou qu'il n'y a pas d'amélioration à faire, ça serait inadéquat. Je pense que oui, il y a des choses, puis on est en cours actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a une structure qui est en place. Hein. Il y a des comités de vigie qu'on appelle, à lesquels participent et la FMOQ et la FMSQ en temps réel pour pouvoir améliorer tant au niveau local qu'au niveau national. Donc, on savait l'ampleur du déploiement de cette structure-là. Et devant ces faits-là, on a mis les structures en place pour pouvoir essayer de pallier le plus rapidement possible aux difficultés du parcours.
Bien, je suis content d'abord de vous entendre dire. D'abord, je ne savais pas à quel point ça avait été utilisé. Là, 500 000 consultations pour 9 spécialités, je peux comprendre qu'il y a des ajustements, primo. Secondo, je vous entends dire qu'il y a du travail à faire pour améliorer le système. C'est bien, parce que quand on reconnaît le problème, c'est plus facile de s'attaquer aux 10 problèmes. Si on ne le reconnaît pas, c'est une autre affaire. Et troisième chose que vous nous dites, c'est que ce qu'on vous avait mis en place, c'est là pour rester, mais il faut le parfaire. Et puis, il s'est ajouté d'autres spécialités entre-temps, ce qui a encore alourdi davantage. Donc, on est en processus d'ajustation puis d'arrimage. Hein? En conclusion, là?
Oui. Puis, il va y avoir un déploiement d'une troisième phase éventuellement au début de 2019, parce qu'il reste encore des spécialités à mettre dans le circuit.
Dans le fameux guichet unique. Exactement. Puis, ultimement, on s'entend que c'est pour que le patient soit mieux servi puis quand il a besoin d'un spécialiste qui y ait accès le plus rapidement possible.
L'objectif premier, c'est le patient. L'objectif premier, c'est de donner cette... Parce qu'on peut comprendre aujourd'hui que même antérieurement avancé, il y avait 2 voies. Puis le docteur Dion l'a bien mentionné, il y avait soit des corridors de service entre des médecins et des hôpitaux ou des cliniques que les gens utilisaient. Puis il y avait ce que j'appelle le terme qui est d'actualité, le patient orphelin, qui lui n'avait pas ces contacts-là, qui devait essayer de se trouver un rendez-vous à gauche ou à droite.
D'accord.
Puis quand on rentre dans le système de santé pour un patient, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de permettre justement à l'OMNI de pouvoir accélérer le processus et dire, ben voilà, j'envoie ma demande de consultation à telle place et quelqu'un va le prendre en charge pour essayer de trouver pour mon patient un rendez-vous avec un médecin spécialiste.
Et là, il y a du travail à faire pour le trouver, le dit spécialiste, dans les temps prévus.
Voilà. Compte tenu de la volumétrie, effectivement, c'est ce que je dis dans le tableau, compte tenu de la répartition des effectifs au niveau national, parce que dans la politique ministérielle, on voulait ramener le plus près possible le patient de sa résidence. Donc, ce que j'appelle la politique 4-5-0 au niveau ministériel.
Docteur Rénal. Malheureusement,
les effectifs ne sont pas toujours en accord avec cette répartition-là actuellement.
Docteur Ferland, vice-président de la FMSQ, merci.
Ça fait plaisir.
Dans un instant, Luc Lavoie s'amène.